Je réfléchissais pour cette réunion vraiment et vous savez, on cherche Dieu et je pensais vraiment parler sur un sujet et puis j'ai eu à cœur de reprendre ce que j'ai apporté à la jeunesse hier et je pense que c'est là la volonté de Dieu. Et je vais vous inviter, je vous dis ça parce que j'ai rien à cacher mais parce que vraiment, je pense que c'est le Seigneur qui veut qu'on partage cela ensemble. Et je vous invite à ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Luc au chapitre 5. C'est un moment important. Nous lisons ensemble, nous allons lire les 11 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac, deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. C'est un contexte intéressant à étudier, particulier, parce que peu de temps avant, Jésus est dans la synagogue, il va prendre la parole, le rouleau du prophète Ésaïe, il va dire, voilà, cette parole est accomplie. C'est dans Luc 4, si vous n'êtes pas habitué, si vous ne savez pas de quoi il est question, lisez ce chapitre de Luc 4, c'est un chapitre extraordinaire. Jésus se révèle, commence à se révéler. Commence à montrer qui il est, commence à montrer pourquoi il est venu sur terre, commence dans les prémices de ce qu'il a sur son cœur pour l'humanité, et la réponse des hommes religieux, la réponse du monde, et cette réponse, c'est la même réponse qu'il aura tout au long de son ministère, c'est cette même réponse que Jésus va avoir encore aujourd'hui, c'est le rejet, c'est la persécution, et comme je partageais, les hommes religieux et le peuple n'ont rien trouvé de meilleur lorsque Jésus va se révéler de cette manière en disant, mais on va te présenter précipité du haut de la falaise. Ça a été ça la réponse. Pour montrer, je pense que si ça a été écrit, ce n'est pas pour qu'on juge, ce n'est pas pour qu'on se dise « mais nous on est meilleurs », c'est pour qu'on voie vraiment ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Un rejet de Jésus-Christ, un rejet de celui qui a tout laissé, celui qui a été crucifié, celui qui est venu volontairement, comme nous l'a rappelé notre frère Antoine, il n'était pas obligé, c'est lui qui l'a voulu ainsi, pour nous montrer le chemin, pour nous bénir, pour nous donner le pardon de nos péchés. En tout cas, toujours est-il que là, nous sommes à Capernaum, et là, il va être accepté Jésus-Christ, au point où personne ne veut qu'il parte, au point où les personnes vont vouloir vraiment qu'il reste, les foules se presser pour entendre, pour parler, peut-être pour toucher ses habits, parce qu'il y a toujours cette curiosité, parce que lorsqu'il y a le surnaturel qui est là manifesté, forcément ça suscite l'interrogation, ça suscite vraiment des questionnements et on a envie de voir. Et alors que les gens sont là, on l'a lu, je résume un petit peu le contexte parce que je pense que c'était important et c'est important de voir que Jésus va dire, mais là, je ne peux plus rester sur la foule, avec la foule, il faut que je monte sur une barque. Et on peut vraiment imaginer, et je pense que vous êtes d'accord avec moi cet après-midi, il ne faut pas vraiment de révélation de la part de Dieu pour comprendre que s'il est monté sur la barque de Simon-Pierre, ce n'était pas un hasard. Il y avait là comme une préparation. Jésus n'est pas pris de court par ce qui peut se passer dans notre vie. Tout est préparé, tout est là entre ses mains. Et il va sur la barque de Simon-Pierre en lui disant, mais là, retire-toi, je monte avec toi et je vais enseigner la foule. Je vais enseigner la foule. Et c'est mon premier point. Vraiment, j'ai ça sur le cœur. C'est lorsqu'il va dire, il va enseigner et à un moment donné, il va y avoir comme une fracture, il va y avoir comme une pause, il va y avoir comme un moment tellement important parce que la Bible nous dit, et c'est la première partie du verset 4 de ce chapitre 5, lorsqu'il eut cessé de parler. Lorsqu'il eut cessé de parler. Après, nous allons voir, il va se passer quelque chose. Mais au début, Jésus va s'arrêter de parler, va s'arrêter d'enseigner, va arrêter ce qu'il a à dire pour un temps. Et nous, on sait parce qu'on a lu l'histoire, nous, on sait parce qu'on est habitué à entendre la parole, on est habitué, on sait ce que va devenir Pierre, on sait ce que va devenir les disciples. Mais peut-être que quelquefois dans nos vies, il en est de même. Jésus va cesser peut-être de parler pendant un instant. Jésus va peut-être s'arrêter. Il va y avoir peut-être une pause dans notre vie. Parce que il faut, et c'est quelque chose qui est là tellement important, il faut qu'il y ait une mise en application de la parole de Dieu. Il n'a pas été question que si Jésus-Christ, une fois que nous étions sauvés, une fois que nous ayons demandé pardon pour nos péchés, une fois que nous ayons reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, comme notre Seigneur, Jésus ne nous a pas dit, mais restez sur terre parce qu'il faut emmagasiner beaucoup de savoir, il faut emmagasiner beaucoup de connaissances théologiques. Je pense que si on est là, cet après-midi, bien sûr, c'est parce qu'il y a un rendez-vous, mais demain, après-demain, je pense qu'il y a une application. Je pense que la parole de Dieu doit être là, comme imprégnée dans notre être, pour qu'il n'y ait pas de dissonance entre ce que nous entendons et ce que nous pratiquons, entre ce que nous entendons à l'Église, entre ce que nous entendons lorsque nous lisons la parole de Dieu, entre ce que nous entendons lorsque nous prions, lorsque nous avons des moments d'intimité avec lui et dans le concret de notre quotidien. Combien de fois des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles sont venus à l'église, ont entendu une parole, repartent de l'église avec cette pensée, avec peut-être des déserts, avec peut-être des moments difficiles, parce que c'est ainsi, la vie chrétienne, on le sait, on a de cesse que de le rappeler dans ce lieu. La vie chrétienne n'est pas facile et peut-être qu'il y a des moments où on doit fuir comme David, des moments où on doit se réfugier dans des cavernes comme David, des moments où il semblerait que Jésus a cessé de nous parler. Quel comportement avons-nous ? Et bien sûr, vous comprenez cet après-midi que je ne suis pas en train de dire que Jésus ne veut plus parler. Je suis en train de dire qu'il y a des moments où peut-être parce que Dieu veut nous façonner au travers de cela, parce que Dieu veut vraiment modeler notre vie, notre être entier. Peut-être qu'il y a des moments où Jésus doit cesser de parler. Est-ce que nous allons tenir dans nos engagements ? Est-ce que nous allons tenir dans notre vie de prière ? Est-ce que nous allons tenir dans notre consécration ? Est-ce que nous allons tenir dans la vie de l'Église ? Même si nous passons par des déserts terribles, même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que nous pouvons nous écrier que Jésus est encore avec nous ? Est-ce que même si nous ne ressentons rien, même si il semblerait que, et je dis bien, il semblerait que Christ ne soit plus avec nous, est-ce que nous avons cette assurance parce que c'est sa parole qui le dit, qu'il est tous les jours avec nous ? Lorsqu'il eut cessé de parler, et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences tellement dramatiques. Jusqu'à la croix, Jésus ne va pas cesser de parler. Jusqu'à la croix, Jésus va enseigner. Jusqu'à la croix, on voit des hommes, des femmes venir vers lui. Jusqu'à la croix, on voit des personnes qui n'ont pas compris. Après la croix, on voit également des personnes qui n'ont pas saisi pleinement son œuvre. Es-tu le seul qui ignore ce qui s'est passé ? Des personnes qui pensaient peut-être pas qu'il était nécessaire à un moment donné que Jésus doit cesser de parler pour la croix, pour notre fortification, édification personnelle. Je pense qu'on peut se poser toutes ces questions et faire le bilan dans notre vie. J'ai noté d'autres textes où dans la parole de Dieu, on voit que des personnes ont été confrontées à d'autres mesures peut-être. À cela, c'est dans Jean chapitre 6. Je vais vous lire juste quelques versets. Ne cherchez pas. Il est question de révélation, Jean chapitre 6, c'est lorsque Jésus explique qu'il est le pain de vie, ce pain descendu du ciel. Et des disciples vont dire, après l'avoir entendu, cette parole est dure, cette parole est difficile, qui peut l'écouter ? Et la finalité de leur réaction, ça n'a pas été qu'ils ont persévéré dans l'enseignement, dans la prière. La finalité de cela, ça n'a pas été qu'ils ont supplié Jésus-Christ de leur révéler davantage qui il était, mais la finalité, ça a été dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'alla plus avec lui. Se retirèrent. Il y a des paroles qui restent, des paroles de Jésus-Christ lorsqu'il peut-être il s'arrête pour voir comment est-ce qu'on va se comporter. Est-ce que nous aussi, nous disons cet après-midi, c'est peut-être un peu difficile ? Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas tentés peut-être de passer notre chemin en disant « mais je ne vais plus aller avec lui, je ne vais plus aller avec Jésus-Christ parce que ça peut être compliqué, ça peut être difficile ?» Nous sommes tous confrontés à ce choix. Et je pense que Pierre qui était là, à côté du Maître, à côté de Jésus-Christ, peut-être que lorsque Jésus a cessé de parler, il s'est dit, on va peut-être rentrer. Lorsque Jésus a cessé de parler, peut-être qu'il avait des questions, on ne sait pas. Peut-être qu'il y avait tellement de sentiments qui pouvaient se mélanger. Mais je crois que pour le Seigneur Jésus-Christ, il y avait une parole, une expérience pour Pierre. Et c'est la mise en pratique, c'est l'application de la parole de Dieu. Ça a été l'application de l'enseignement de Jésus-Christ pour Pierre. Et je pense que nous aussi, nous avons au même titre une application à avoir de la parole de Dieu. Lorsque Jésus nous communique des choses, quelquefois on prie, on passe du temps dans la prière, quelquefois on cherche la face de Dieu. Jésus nous a déjà parlé dans des domaines de notre vie particuliers. Des chrétiens disent « mais est-ce que je dois pardonner à telle et telle personne ?» se pose la question. Et on prie pour savoir si on doit pardonner, et on prie pour savoir si on doit aimer, on prie si on doit aller évangéliser, on prie pour savoir si on doit être une lumière, on prie pour ceci ou pour cela, et il semblerait que on n'entend plus la voix de Dieu, on n'entend pas la voix de Dieu, mais parce qu'il nous l'a déjà dit. Parce qu'il y a tout ce dont nous avons besoin dans la sainte parole de Dieu, dans le saint livre, on a tout ce dont nous avons besoin. Et nous devons écouter et mettre en pratique. Et c'est mon deuxième point, et c'est le titre de ce message, c'est « Avance en pleine eau ». Il va dire à Simon, et c'est la suite de ce verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il y avait une parole pour Simon, une expérience de vie, quelque chose de particulier, quelque chose que nous devons expérimenter, quelque chose qui peut bouleverser notre vie. Il va dire à Simon, avance en pleine eau, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Jacques va nous enseigner sur l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. Je vous le lis, ce qu'il dit, c'est dans Jacques chapitre 1er, dans la version David Martin. Mettez en exécution la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous décevant vous-même par de vains discours. Mais celui qui aura regardé au-dedans de la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublieux, mais s'appliquant à l'œuvre qui lui est prescrite, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait, et heureux, on peut le traduire par béni. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on le cite beaucoup, il y a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Pour nous qui avons purifié notre cœur, comme nous l'a rappelé notre frère pour la Sainte-Seine, purifier notre cœur non pas avec notre capacité, mais bien sûr avec le sang de Jésus-Christ, avec le sacrifice de la croix. Nous avons des cœurs purifiés, nous sommes purifiés devant Dieu lorsque Dieu nous regarde, chacun d'entre nous qui avons mis notre foi, notre espérance en lui, il nous voit purs, il nous voit saints. Et est-ce que lorsqu'il nous regarde, nous comprenons également que dans les projets de paix qu'il a formés pour nous, il y a des œuvres? Est-ce que nous comprenons que la parole, ce qu'il nous a laissé, c'est pour qu'il y ait une application concrète dans notre vie? Est-ce que nous comprenons que peut-être nous ne sommes pas destinés à rester toute notre vie au bord du rivage? Nous ne sommes pas destinés toute notre vie à travailler, travailler encore, travailler toute la nuit sans rien prendre. Qui dans ce lieu peut dire « mais moi ça m'est arrivé, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris ». J'ai prié un an pour telle et telle chose. Je n'ai pas eu ça. J'ai prié 6 mois, 3 mois. J'ai voulu essayer de lutter. Quelques mois, quelques temps, j'y suis pas arrivé. Cet après-midi, on pourrait être nombreux, et je ne vous fais pas lever la main, mais je lève la main parce que ça m'est arrivé, d'essayer de lutter. Pourtant, Pierre, c'était son travail. Je ne sais pas, ça devait peut-être toucher son orgueil. Il était habitué, c'était un professionnel, ce n'était pas un amateur. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de naviguer, quelqu'un qui connaissait l'environnement. Mais j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit, Seigneur. Alors peut-être que je vais m'arrêter là. J'ai travaillé toute la nuit, Seigneur. Alors peut-être que je vais prendre du recul avec l'Église. Peut-être je vais prendre du recul avec la sainteté. J'ai essayé, j'attends, mais rien ne se passe. Alors peut-être que je vais en rester là. Mais je pense que Jésus-Christ a une autre parole pour nous. Cet après-midi, il a cette parole. Avance en plein eau. Tu n'as rien eu, tu as persévéré, tu as travaillé la nuit, tu as manifesté ton engagement, tu as manifesté vraiment de la consécration. Tu ne vois pas le résultat, mais qu'importe, avance en plein eau. Éloigne-toi, prends, fais ce pas de la foi, fais ce pas pour dire, mais peu importe ce que je vois, ce que je ressens, il y a une vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Il y a cette vérité, quand bien même il semblerait qu'il n'y ait rien. D'un point de vue humain, je ne vois rien. De point de vue de mes efforts, c'est le néant, c'est zéro. D'un point de vue de mes capacités, je n'arrive à rien. Qu'importe. Jésus n'a pas voulu faire un cours de pêche à Pierre. Il n'a pas expliqué, voilà, tu aurais dû attendre le bon moment, tu aurais dû peut-être prendre d'autres filets, tu aurais dû ramer moins fort, je ne sais pas, faire moins de bruit, que sais-je, je ne suis pas un spécialiste. Tu aurais pu faire ceci ou cela, il n'est pas question de technique, il n'a pas été question de remettre en question ses capacités. Le but, ça a été peut-être de remettre en question sa vie spirituelle, ce qu'on désire pour Dieu, ce qu'on veut faire pour Dieu, là où on veut aller pour le Seigneur, ce qu'on veut entreprendre pour Dieu, ce qu'on espère pour Dieu, ce qu'on espère pour l'Église, la vie de l'Église, les choses qui sont sur notre cœur. Est-ce qu'on n'espère rien? Est-ce qu'on vient dans ce lieu, on s'assoit et on se dit « mais c'est bien l'Église de Sainte-Agne, elle est bien ». Est-ce qu'on est là, on se dit « ah, mais peut-être qu'il faudrait faire ceci, cela », peut-être qu'on est assis, on se dit « ah, mais le pasteur, les anciens, les frères, ils devraient penser à faire ça, ça serait beaucoup mieux ». Ou est-ce qu'on a à cœur, nous, personnellement, de se dire « mais peut-être que moi, j'ai envie d'œuvrer ». J'en ai marre d'entendre les témoignages des autres disant qu'ils ont été bénis, disant qu'ils ont eu les réponses à leurs prières, disant qu'ils ont vécu une expérience avec Dieu. Peut-être qu'il est temps de me dire, moi personnellement, que le Seigneur aussi m'appelle à me dire, mais avance en plein eau. Une autre traduction, dira « Pousse au large, mène au large, avance en eau profonde, ne te contente pas du peu, ne te contente pas de rester là, ne te contente pas de tes habitudes, pousse un peu au large, même si tu perds pied, même si tu perds le contrôle, même s'il semblerait que tu ne maîtrises plus, mais tant mieux si tu ne maîtrises pas. » Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas, on est dans cette obligation de laisser le Seigneur diriger nos vies, diriger les circonstances, diriger les prières, diriger nos prières, diriger notre piété. Il y a cet appel, et cet après-midi, vraiment, j'ai ça sur le cœur. Je l'avais pour la jeunesse, je l'ai cet après-midi. J'aurais pu prêcher, vraiment, je pensais prêcher autre chose. Et c'est ça qui est venu, c'est ce thème. Avance en pleine eau. Et comme je disais hier soir, il y a ce rappel du Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette chose qui est là, tellement simple. Mais lorsque on entend l'appel du Seigneur nous dire « Mais avance, va au large, pousse, va plus loin, va dans cette direction, va plus loin avec le Seigneur », automatiquement, on peut le calculer comme on veut, mais automatiquement, lorsqu'on s'avance vers Dieu, lorsqu'on va en profondeur avec Dieu, on est obligé de s'éloigner du monde, on est obligé de s'éloigner du rivage, on est obligé de s'éloigner de peut-être notre confort spirituel pour laisser le Seigneur Jésus-Christ guider notre barque, guider notre bateau. Je pensais à ce texte, on peut le lire s'il vous plaît, c'est dans Jérémie chapitre 12, parce que cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui a été rappelé, qui a été dit pour Pierre, est un enseignement que des prophètes ont eu, que des personnes qui étaient au service de Dieu ont eu, et nous lisons ensemble dans Jérémie chapitre 12, à partir du verset 5, et on va lire juste le verset 5 d'ailleurs. Le contexte, je ne sais pas si vous le savez, mais le contexte de Jérémie, de ce chapitre 12, ça a été vrai. C'est difficile pour Jérémie. Il vit des moments difficiles. On pourrait paraphraser, et vous comprendrez la pensée cet après-midi, on pourrait dire que lui aussi, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. On pourrait le dire, qu'il y a eu de la souffrance, de l'incompréhension. Et la réponse de Dieu, on pourrait, et vraiment je pense que vous voyez où je veux en venir, on pourrait comprendre exactement cette parole du Seigneur Jésus qui dit « Mais pousse au large, pousse au large ». Parce que Dieu va lui répondre en lui disant « Mais si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» On pourrait paraphraser « Mais va au large, pousse au large, parce que tu ne peux pas te contenter, tu ne peux pas rester là où tu en es aujourd'hui. » Il faut grandir spirituellement. Si avec des piétons tu te fatigues, si dans la marche tu te fatigues, comment tu vas faire lorsque le pas va s'accélérer? Si tu es en sécurité, si tout est bien dans ta vie, uniquement lorsqu'il y a la bénédiction, si tu es heureux seulement parce que tu sens que Jésus te bénit, si tu es heureux uniquement parce qu'il semblerait que pour l'instant, ta vie soit un chemin orné de pétales de rose avec une douce mélodie derrière et tu marches en chantant des cantiques, si tu es en sécurité uniquement dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, alors il va y avoir un souci. Alors il va y avoir un problème. Et la pensée de Jésus-Christ, c'est ça, c'est « il faut que tu arrives, malgré les circonstances, malgré les événements, à comprendre qu'on doit aller de l'avant. Tu as été déçu, tu as essayé de donner un prospectus, tu as été déçu, 5 fois on l'a rejeté. Essaye une sixième fois, une septième fois. Tu as été déçu dans ta famille, auprès des tiens, de ceux que tu aimes. Tu as été déçu parce que tu pensais qu'ils allaient avoir un bon écho sur ton témoignage. C'est le contraire qui se produit. Mais qu'importe, si tu es en sécurité uniquement quand ça va bien, comment est-ce que tu vas faire plus tard? Comment est-ce que tu vas faire? Va au large, avance en eau profonde. Parce que ce qui change tout dans une vie, ce n'est pas que nous, on prenne la décision d'aller au large. Il n'est pas question cet après-midi, et ne comprenez absolument pas ça, dans le « va au large », avance en eau profonde, de dire « mais voilà, le pasteur m'a dit qu'il fallait que je prenne mes valises, que j'aille ailleurs, parce que c'est ça la solution ». Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est sur la parole de Dieu, sur une parole de Jésus-Christ, « va au large et jette ». Jette ton filet, recommence, recommence. Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Que se passera-t-il? Les rives du Jourdain étaient parsemées de buissons, de toutes sortes de plantations. Et le danger, c'était qu'on ne puisse pas voir lorsqu'il y avait des lions derrière ces buissons. Le danger, c'est ça, c'est on marche, on ne prête pas attention. On est habitué à la sécurité, peut-être qu'on baisse la garde, peut-être qu'on dit « Seigneur, non, moi je suis bien là où je suis, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller plus loin, Seigneur, je n'ai pas envie d'expérimenter ta présence quand bien même je suis dans une tempête, je sais que ta paix me suffit là où j'en suis actuellement. » Le danger, c'est de baisser les bras et de voir des lions venir. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un texte dans la parole de Dieu, où il y a un lion qui rôde autour de nous. Madame Blanc y avait pensé. On est appelé à entendre cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Va, avance en pleine eau. Avance parce que c'est là où tu pourras expérimenter la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Simon aurait pu, et je vais terminer avec ce dernier point, Simon aurait pu dire, Seigneur, écoute, toi ton domaine c'est la prédication, c'est l'enseignement, moi c'est la pêche. Restons-en là. Il aurait pu répondre, écoute, je suis fatigué. Il aurait pu répondre, écoute, peut-être dis ça aux collègues qui sont là-bas à côté. Dis ça à Jacques. Dis ça aux fils de Zébédée. Eux, ils sauront quoi faire. Moi, je veux m'en arrêter là. Je veux stopper. Peut-être qu'il a remis sa carrière en jeu, on ne sait pas. Peut-être qu'il s'est dit, mais je vais arrêter la pêche, je vais faire un autre travail. Combien de chrétiens, parce qu'ils ont été déçus, disent, mais je vais changer, je vais arrêter. Sur ta parole, je vais jeter les filets, je vais recommencer. Et je ne sais pas, on l'a lu ensemble et vous avez bien vu que ce qui change tout, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas simplement d'entendre, de lire. Ce n'est pas seulement de dire, mais c'est une histoire extraordinaire. C'est de comprendre que la parole de Jésus-Christ a un impact concret dans notre existence. A un impact pratique, peut renverser des montagnes. Je me souviens de ce pasteur, ça remonte vraiment à quelques années, mais c'est une histoire que j'ai jamais oubliée. Vous connaissez tous ce passage où Jésus explique que si on avait la foi comme un petit grain de moutarde, on pourrait dire aux montagnes de se déplacer, jette-toi à la mer, et elle se jetterait. Il y avait, ça ne se passe pas en France, un endroit où une dame âgée avait un terrain environné de quelques collines, et il y a eu un éboulement, et plein de rochers sont tombés sur son terrain. Et elle, catastrophée, va voir le pasteur en lui disant, mais pasteur, priez, parce que j'ai des petites montagnes dans mon terrain, il faut que le Seigneur les enlève. Et le pasteur lui dit, mais ma sœur, vous savez, il y a un enseignement derrière, c'est pas comme ça que ça marche. Et il explique qu'elle allait garder ses rochers sur son terrain. Et cette sœur qui était là, âgée, va rentrer chez elle en disant, mais moi je veux prier. La foi de prendre la parole de Dieu d'une manière concrète. Elle va prier. Un jour, On sonne à sa propriété. C'était pas un promoteur, un entrepreneur ou quelqu'un dans le bâtiment qui dit « Madame, Madame, est-ce que vous voulez bien nous vendre les rochers qui sont tombés sur votre terrain ?» Parce qu'ils nous intéressent, on en a besoin. Et ils sont venus avec leur bulldozer et que sais-je encore, et non seulement ils lui ont enlevé les rochers, les cailloux, mais en plus ils l'ont payé pour cela. La mise en pratique de la parole de Dieu, la justesse de ce que Jésus-Christ peut faire dans une vie. Jette ton filet. Tu l'as déjà fait, refais-le. Jette le filet, va en pleine eau, va dans les profondeurs de Dieu, de son intimité, parce qu'il pourra faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je terminerai quand même avec ce qu'il va dire pour Simon-Pierre. Parce que alors que Pierre va avoir une révélation, et là aussi on pourrait dire beaucoup de choses, parce que lorsqu'on avance en pleine eau, automatiquement, lorsqu'on avance avec Dieu, lorsqu'on va dans les profondeurs de Dieu, on a des révélations plus intimes de Jésus-Christ. On apprend davantage qui est Jésus-Christ. Et Simon-Pierre va tomber à genoux, va reconnaître que lui, c'était un pécheur. Et Jésus va lui dire, mais ne crains pas, désormais, tu seras pécheur d'homme. Et c'est mon troisième point, c'est les « tu seras ». Et comme je disais hier soir aux jeunes, j'ai regardé dans la parole de Dieu les « tu seras ». Et il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es là, je ne sais pas, on ne se connaît pas tous, je ne sais pas où tu en es. Mais il y a cette réalité dans notre vie spirituelle. Il y a cette réalité, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus-Christ, fais-le maintenant, n'attends pas. N'essaye pas de tout comprendre, n'essaye pas d'analyser, tu ne peux pas. Fais-le avec ton cœur. Toi qui es converti, peut-être depuis un jour, deux jours, une semaine, des années, qu'importe. Ne restons pas là où nous en sommes, avançons en pleine eau. Parce que, et je suis convaincu, que le Seigneur Jésus a encore des « tu seras » pour notre vie. On se souvient, et je vais vous donner quelques versets. On se souvient lorsque Jacob va se battre, va rentrer dans un combat avec l'ange, qu'il ne va pas le laisser partir. L'ange va lui dire, mais voilà, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël, tu seras celui qui est vainqueur. Tu ne seras plus celui qu'on disait, mais c'est le supplanteur. Tu ne seras plus celui qu'on regardait en disant, mais lui, il n'arrivera jamais à rien. Tu seras Israël. Tu seras l'accomplissement des promesses de Dieu. On se souvient lorsqu'il va, Dieu va s'adresser à Abraham, il va lui dire, mais tu seras une source de bénédiction. Tu seras, c'est pour toi. Dans le Deutéronome, on voit lorsque il y a là le cœur de Dieu qui s'adresse à son peuple en disant, mais tu seras béni plus que tous les peuples. Est-ce que c'était seulement pour le peuple d'Israël, il y a de ça des centaines et des centaines d'années en arrière? Ou est-ce que cet après-midi, on ne peut pas encore entendre la voix de Jésus-Christ nous dire, mais peut-être ça te coûte d'avancer en pleine eau, peut-être que tu as des difficultés, mais si tu le fais, est-ce que Jésus-Christ ne peut pas dire, mais voilà mon frère, tu seras une bénédiction pour les tiens autour de toi. Tu seras entièrement à ton Dieu, dans Deutéronome 18. Tu seras mis à part. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni à ton départ. Tu seras un peuple saint, tu seras saint. Tu seras à l'abri, tu seras sans crainte. Tu seras ferme et sans crainte. On pourrait faire une liste encore. Ésaïe 62 nous dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Toutes ces promesses, tous ces tu seras, moi je pense, je ne sais pas comment vous l'appréhendez, comment vous vivez cette prédication, ce message, mais je pense que nous aussi on peut s'approprier avec la délicatesse de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son amour. Peut-être que c'est difficile, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu ressasses les mêmes choses depuis des années. Peut-être que tu es sec. Peut-être que tu es dans un désert, peut-être que tu désires, tu soupires après comme une nouvelle visitation de ton Dieu, après cette fraîche rosée qui est répandue par l'amour de Dieu. On connaît dans Isaïe 58, lorsqu'il nous est dit « Mais tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Toi qui peut-être portes la tristesse sur ton visage, toi qui es là, qui es dans tes problèmes, tu ne vois pas d'issue, pas de solution. Peut-être que tu es là sans cesse dans ta barque à calculer en te disant « Mais je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faut que je règle ceci ou cela. » Et c'est vrai, dans certaines situations, dans certains cas, on doit régler, le Seigneur nous demande de régler des choses pour qu'on puisse avancer. Mais il y a un autre extrême dans lequel nous tombons bien souvent. C'est ce que l'ennemi de nos âmes veut faire, nous paralyser pour nous faire croire qu'on ne pourra plus avancer, plus évoluer, plus aller au large, plus être dans l'intimité de notre Dieu, plus vivre la parole de Dieu comme on l'avait vécu. Ce que l'ennemi de nos âmes veut nous faire croire, c'est que peut-être qu'il y a des tusseras de bénédiction pour Dieu, mais il y a peut-être d'autres tusseras, les tusseras de malédiction qu'il y a également dans la parole de Dieu, et veut nous faire croire que nous, c'est seulement ça. J'ai rencontré des chrétiens qui pensent, qui ouvrent la parole de Dieu, et on ne sait pas, ils ont une aisance pour prendre que des paroles de condamnation. Alors à chaque fois, ils disent « Mais voilà, le Seigneur me condamne, le Seigneur ne m'aime pas ». La vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Si on prend la sévérité de Dieu, on prend la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et je pense que le Seigneur a encore des choses à faire avant son retour. Je pense que le Seigneur a encore des paroles où il veut nous dire « Mais avance en pleine eau, parce que c'est là-bas que tu vas pêcher les poissons, parce que c'est là-bas que tu vas voir ma puissance, parce que c'est là-bas, après l'avoir expérimenté, que tu pourras comprendre que dans ta vie, tu n'es pas seulement appelé à porter le deuil, à porter la tristesse, à porter le malheur, à porter que sais-je encore, mais tu es également apporté les tusseras, une source de bénédiction, tu seras pur, tu seras saint. » Je terminerai cette fois-ci, vraiment, avec la finalité de la ville de Capernaum, parce que cette scène se déroule à Capernaum. Et vous voyez, on a toujours le choix. Le Seigneur ne nous bouscule pas, ne nous force pas, de la même manière que dans Luc 4, il a été rejeté à Nazareth. Dans Luc 5, on voit que la foule l'apprécie. On voit qu'ils aiment les miracles, mais qu'ils n'aiment pas tellement l'auteur des miracles. Et il va y avoir une condamnation pour cette ville. Comment est-ce que nous prenons la parole de Dieu cet après-midi? Est-ce que nous allons sortir de ce lieu en disant « Ben voilà, c'était pas mal, c'était bien, ça m'a pas parlé, je sais pas. » Est-ce que vous allez sortir de ce lieu en disant « Mais je veux expérimenter la parole de Dieu, je veux accepter Jésus-Christ. » Parce qu'il y a un danger, c'est de perdre vue, c'est de se détourner nos regards de ce que Jésus-Christ a pour nous. Jésus-Christ va dire « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? » Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est dans Matthieu 11, 23 et 24. « Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et toi, Capernaum, toi qui as vu ces enseignements, les miracles, est-ce que ça a été tellement difficile de recevoir la parole et de la mettre en pratique, en application? Mon frère, ma sœur, j'avais vraiment ce message d'encouragement, ce message où je pense que Dieu veut qu'on aille plus loin avec lui. Ce message, oui, il veut nous dire « Mais tu seras ma bien-aimée, tu seras mon bien-aimé, tu seras mon fils, ma fille, tu seras le sujet de ma joie. » Mais ce message, on peut le rejeter. On peut ne pas prendre cette parole. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Seras-tu pris lorsque Jésus va revenir? Seras-tu prêt pour le retour de notre Seigneur? Il n'y a que le Seigneur qui peut répondre. Peut-être vous, toi, mon frère, ma sœur, toi, mon ami qui vient dans ce lieu. En tout cas, plaise à Dieu que nous puissions vraiment serrer sa parole cet après-midi et aller plus loin avec lui. On peut se recueillir un instant si vous le voulez bien. Notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es tout-puissant. Nous te bénissons parce que nous voyons ton amour, ta délicatesse, ta sensibilité à notre égard. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais où nous en sommes. Seigneur, là où nous en sommes, nous voulons aller plus loin avec toi. Seigneur, peut-être il y a un bien-aimé qui a été découragé, une bien-aimée qui a été meurtrie, je ne sais pas, qui a peut-être voulu regagner le rivage pour tout abandonner, qui dit, mais moi, ce n'est pas une nuit que j'ai travaillé, c'est des dizaines et des dizaines de nuits sans résultat, sans fruit. Mon Dieu, encourage, encourage, bénis cet après-midi. Peut-être reprends une personne, mon Dieu, selon ta bonté, ta sévérité, parce que nous savons que si tu nous reprends, c'est pour notre bien. Peut-être nous nous contentons juste d'être sur une barque, mais pas en eau profonde. Peut-être que nous sommes là dans un confort spirituel. Aide-nous à aller plus loin, mon Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît, oui, aie compassion de nous, de ton peuple. Permets à quelqu'un de faire la paix avec toi, mon Père, s'il te plaît, au travers du sang de Jésus-Christ. Qu'il puisse comprendre, qu'elle puisse comprendre que la croix, comme nous l'avons chanté, c'était pour nous personnellement, parce que nous étions perdus. Mon Dieu, merci, parce que tu vas au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Merci pour ces instants, veuille nous raccompagner. Que nous puissions méditer ta parole jour après jour. Passer du temps dans la prière avec toi, parce que c'est cela notre joie. Donne-nous de remporter des victoires également, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.